Vous êtes avec SBS French.
Les principales actualités de ce mardi en Australie. Une étude est parue hier concernant le coronavirus. Le virus résisterait, semble-t-il, beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant sur les surfaces, comme par exemple les tables ou les téléphones portables. Aux États-Unis, Donald Trump s'apprête à démarrer un marathon électoral. 3 meetings sont prévus dans 3 étapes différentes au cours des prochains jours. Et puis, la saison des Nobel s'est terminée hier. Le prix d'économie a été attribué à 2 économistes américains. On en parlera plus tard dans ce journal. Le coronavirus serait donc bien plus résistant qu'on ne le pensait lorsqu'il se trouve sur des surfaces inertes, comme par exemple les écrans de nos téléphones portables ou bien les distributeurs automatiques de billets. C'est la conclusion à laquelle est arrivée une étude menée par des chercheurs australiens, selon laquelle le virus pourrait survivre jusqu'à 28 jours sur certaines surfaces. Néanmoins, il faut quand même préciser que cette expérience a été réalisée dans des circonstances très particulières. Écoutez les explications de Simon Rosé pour Radio France Internationale.
Jusqu'à présent, on estimait que le coronavirus pouvait résister jusqu'à 4 jours sur des surfaces. Selon cette nouvelle étude australienne, cela pourrait durer 7 fois plus longtemps sur des surfaces lisses comme les écrans de téléphone portable ou même sur les billets de banque. 28 jours, donc un chiffre impressionnant qu'il faut cependant prendre avec des pincettes, car cette expérience a été réalisée dans des conditions bien particulières. Tout d'abord, les chercheurs ont utilisé une grande quantité de virus pour voir s'il restait des survivants, des niveaux comparables un pic épidémique. Ces échantillons ont ensuite été laissés dans une pièce à 20 degrés avec un taux d'humidité de 50%, des conditions idéales pour le coronavirus. Coronavirus qui n'a en plus pas été exposé à la lumière du soleil alors qu'on sait que ces rayons UV l'endommagent rapidement. Bref, avec ces conditions, les auteurs de l'étude ont déterminé cette durée de vie qui constitue un maximum difficilement reproductible dans la vie quotidienne. Cette étude a cependant le mérite de montrer que le coronavirus reste tout de même un virus résistant, plus que celui de la grippe dans des conditions similaires. Un rappel également de l'utilité des gestes barrières et de l'hygiène en période épidémique.
Et le coronavirus dans l'état du Victoria aujourd'hui, on en recense 12 nouveaux cas, également un décès, une personne d'environ 70 ans. Le Premier ministre de l'État, Daniel Andrews, devrait assouplir certaines mesures en fin de semaine, mais le confinement à Melbourne, lui, devrait perdurer.
Our aim has always been clear, open at a point where you can be confident that you can stay open. No business, large or small, will benefit from being open for a very short period of time, only then to have to pinball in and out of rules and restrictions and shutdowns well into 2021. Logic tells you that. My discussions with many, many people in the business community confirm that.
Et en Tasmanie, le chef du gouvernement, Peter Goodwine, a pour sa part confirmé son intention de rouvrir l'île aux États les moins affectés par le virus d'ici la fin du mois. Ça devrait donc normalement être le cas de l'Australie méridionale, de l'Australie occidentale, du Queensland, du Territoire du Nord et enfin, de Canberra à compter du 26 octobre. Ceci dit, ceux qui se rendront en Tasmanie après ces dates devront néanmoins se faire contrôler leur température à leur arrivée. La Tasmanie suit également de très près la situation en Nouvelle-Galles du Sud et une décision concernant cet état devrait être prise d'ici au 19 octobre. En revanche, pour ce qui est de l'état du Victoria, les frontières de la Tasmanie resteront fermées au moins jusqu'au mois de décembre, d'après Peter Goodwine.
We won't put Tasmanians at risk, and the health, safety and well-being of Tasmanians is the first and foremost thought in our minds. And in terms of Victoria, certainly for the time being, Victoria will remain closed to Tasmania.
Dans ces conditions et avec en plus le maintien de la fermeture des frontières internationales, l'industrie du tourisme en Australie souffre énormément. À partir de la fin de la semaine, les Néo-Zélandais pourront de nouveau venir en Australie, pour l'instant seulement en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Territoire du Nord, mais ça ne compensera bien sûr pas tous les autres touristes étrangers, notamment les touristes chinois qui sont habituellement à la fois les plus nombreux mais aussi ceux qui dépensent le plus lorsqu'ils viennent en vacances en Australie. Alors, pour soutenir un secteur qui est actuellement totalement à l'agonie, le ministre du Tourisme australien Simon Birmingham a appelé les Australiens, qui de toute façon ne peuvent pour l'instant pas partir en vacances à l'étranger, à soutenir le tourisme local autant qu'ils le peuvent.
Australians have already shown from our big cities enormous willingness to take drive holidays to nearby regions. We now just need them to take the next leap. To realise that sadly they're not going to be able to undertake an overseas holiday in the foreseeable future, but why not take that couple of weeks away and spend it interstate somewhere and really help the local economy while you're doing so?
En Nouvelle-Galles du Sud, ça chauffe pour la première ministre Gladys Berejiklian. Une motion de défiance va être présentée par les travaillistes aujourd'hui, après qu'on ait appris hier lundi que celle-ci avait une relation intime avec un ancien député, Daniel Maguire, qui est actuellement au cœur d'une affaire de corruption. Une relation qu'elle a reconnue et qu'elle a qualifiée d'erreur, mais Gladys Berejiklian a en revanche balayé les appels, et certains de ces appels sont également venus de son propre camp, à sa démission. Elle estime que même si elle a fait une erreur dans le cadre de sa vie privée, elle n'a en revanche, sur le plan public, absolument rien à se reprocher.
Had I known then what I know now, clearly I would not have made those personal decisions that I did. I trusted someone that I've known for a long time and I feel really, really let down. And I'm not going to take away from the fact that I made a mistake in my personal life, but I have to say that there is huge separation between a personal life and public office.
Aux États-Unis, c'est le début d'un marathon électoral pour Donald Trump qui va enchaîner 3 meetings dans les États de Floride, de l'Iowa et de Pennsylvanie, qui sont tous les 3 ce qu'on appelle des swing states. Le président américain accuse également dans les sondages un retard assez net sur son rival démocrate Joe Biden. On va écouter à ce sujet l'analyse de Simon Grivet. Il est historien des États-Unis à l'Université de Lille et il a répondu aux questions de nos confrères de RFI.
Au niveau national, il est distancé de à peu près 10 points en moyenne, et dans les swing states, il est distancé de 4-5 points. Donc, effectivement, il faut garder l'esprit critique. On est un petit peu au-dessus de la marge d'erreur des sondages, mais on n'a pas vu une seule étude d'opinion depuis de longs mois le donnant vainqueur. Donc, il va devoir provoquer le même miracle qu'en 2016, c'est-à-dire faire basculer l'élection dans les dernières semaines. Or, ça semble beaucoup plus difficile, il y a beaucoup moins d'indécis et il y a beaucoup moins d'électeurs un petit peu qui, en 2016, avaient choisi un tiers candidat. On n'en parle jamais, hein, c'est des tout petits candidats, soit écologistes, soit libertariens. Dans certains états clés, ils avaient reçu en 2016 4, 5, 6%. Là, les sondages leur donnent des scores absolument infinitésimaux. Donc, ça semble beaucoup plus difficile. Il faut rester prudent puisque il semble quand même qu'il y ait une difficulté chez certains électeurs à dire aux sondeurs oui, je vote Trump et j'en suis fier.
États-Unis toujours, le comité judiciaire du Sénat examine actuellement la nomination de la juge ultra-conservatrice Amy Coney Barrett que Donald Trump a désignée pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Une nomination qui donnerait une large majorité, 6 contre 3, aux conservateurs au sein de cette institution et qui pourrait, par conséquence, revenir sur de nombreux droits acquis ces dernières années, comme par exemple le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel. La candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, estime que cette nomination revient à balayer tout le travail effectué par la progressiste Ruth Bader Ginsburg, qui vient de décéder.
The Senate majority is rushing this process and jamming President Trump's nominee through the Senate while people are actually voting. I believe we must listen to our constituents and protect their access to health care and wait to confirm a new Supreme Court justice until after Americans decide who they want in the White House.
La Biélorussie, plus que jamais dans le viseur de Bruxelles, l'Union européenne envisage de sanctionner personnellement le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dont la réélection contestée il y a 2 mois et demi a provoqué des manifestations dans tout le pays qui sont très sévèrement réprimées par les autorités. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazet pour RFI.
Si la situation en Biélorussie ne s'améliore pas, l'Union européenne est désormais prête à imposer des sanctions supplémentaires. à l'encontre d'entités officielles, de dirigeants et d'Alexandre Loukachenko lui-même. Les 27 affirment à nouveau que l'élection présidentielle biélorusse du 9 août n'était ni libre ni équitable et qu'Alexandre Loukachenko n'a aucune légitimité démocratique. Depuis le sommet européen du 2 octobre, 40 Biélorusses identifiés comme responsables de la répression et de l'intimidation de manifestations pacifiques sont frappés par les sanctions classiques, à savoir une interdiction de visa pour la zone Schengen et le gel de leurs avoirs en Europe. Des sanctions qui devraient frapper à son tour Alexandre Loukachenko. Il ne reste plus qu'à finaliser la décision juridique pour que ces nouvelles sanctions puissent entrer en vigueur. Au départ, les Européens avaient décidé de ne pas viser le président dans l'espoir de l'amener à accepter une médiation internationale et un dialogue avec l'opposition. Mais pour les Européens, aucune amélioration ne s'est produite puisque les violences policières et les arrestations se poursuivent. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
La saison des Nobel s'est terminée hier avec l'attribution du prix Nobel d'économie. Ce sont deux Américains, Paul Milgrom et Robert Wilson, qui enseignent à l'université de Stanford, qui ont été récompensés. Ils ont été récompensés pour leur théorie sur les enchères. Une récompense tout à fait méritée d'après l'économiste français Alain Tranois, qui explique pourquoi à Radio France Internationale.
Ils ont contribué de deux façons. La première, établir des résultats théoriques puissants. Robert Wilson, lui, s'est intéressé à ce qu'on appelle les enchères à valeur commune, c'est-à-dire, a priori, la valeur du bien est inconnue, mais ça a la même valeur a priori pour tout le monde. Ce qu'il a montré, c'est que plus les gens avaient une mauvaise information sur le bien, plus il y avait d'incertitudes sur la valeur du bien et plus le résultat de l'enchère allait être médiocre. Paul Milgrom, lui, s'est intéressé plus aux enchères privées ou aux enchères mixtes. Et il s'intéressait au problème de manipulation, d'entente entre les différents enchéreurs. Il s'est intéressé au problème d'information, le fait que s'il y en a un qui a une meilleure information que l'autre, qu'est-ce qui va se passer dans les stratégies. Mais je dirais que non seulement ils ont établi des résultats puissants, mais ils ont permis d'améliorer, dans des cas particuliers, l'administration des enchères. Et donc, je dirais que ça aurait été dommage qu'il n'ait pas le prix Nobel, vu la sophistication et le fait que, pour une fois, en tout cas sur le terrain microéconomique, la théorie avait abouti à améliorer l'allocation des ressources.
Et pour terminer ce bulletin d'information, on jette un œil sur la météo de ce mardi 13 octobre en Australie. 29 degrés et du soleil à Perth, 26 degrés à Adelaide, 16 petits degrés à Melbourne, 27 degrés à Sydney où il fait très beau aujourd'hui, des nuages à Brisbane où il fait 28 degrés et des averses à Cairns où le thermomètre affiche 31 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.